Vous écoutez RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mardi 5 mars, deux gardiens de prison grièvement blessés par un détenu radicalisé. Ça s'est passé à la prison de Condé-sur-Sarthe. Le syndicat Force Ouvrière parle d'actes terroristes. L'homme est actuellement retranché, le raid est sur place. Nouvelle nuit d'émeute à Grenoble, plusieurs dizaines de voitures incendiées. L'oncle de l'un des deux jeunes qui se sont tués à scooter samedi lance un appel au calme, vous l'entendrez sur RTL. Carlos Ghosn sera-t-il libéré? Le parquet a fait appel de la décision du tribunal de Tokyo. Invité d'RTL Midi, l'avocat français de l'ancien patron de Renault, Maître Le Borgne. Les syndicats vont sécher la réunion sur la réforme de la fonction publique demain, c'est une information RTL. Ils dénoncent la méthode de concertation du gouvernement. Un patient en rémission du sida à Londres, c'est seulement le deuxième cas au monde depuis l'apparition de cette maladie. Faut-il s'accrocher à cet espoir? Nous ferons le point sur les traitements. Pour l'instant, on vit avec le sida, mais on n'en guérit pas encore. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
On révise nos classiques, grisaille au nord, soleil au sud.
Oui, exactement. C'est ce que l'on va retrouver aujourd'hui avec des nuages dans la moitié nord et au nord de la Loire même quelques averses. Elles sont soutenues en ce moment dans le nord-est. Le risque existera encore cet après-midi, donc dans ces régions du nord avec quelques éclaircies au milieu de tout ça. Un peu moins de vent, même s'il en restera un peu près de la Manche. Puis plus on ira vers le sud, plus on retrouvera du grand soleil, notamment de l'Aquitaine aux Alpes et à la Méditerranée, où là ce sera même du ciel bleu avec des températures qui restent un peu au-dessus des moyennes de saison. 11 à 14 degrés dans la moitié nord, 8 à 10 degrés dans l'extrême nord-est et 14 à 19 degrés encore dans le sud.
La question du jour sur RTL.fr. Emmanuel Macron a-t-il raison de s'adresser aux Européens? Vous dites oui à 33%, il y a 58% de non. On attend vos appels au 3210, vos arguments sur Facebook et Twitter. Bonjour Pascal.
Bonjour Christelle, et on les attend également entre 13h et 14h à travers cette question. Que pensez-vous de la tribune d'Emmanuel Macron sur l'Europe? Peut-elle être entendue? Les questions européennes vous intéressent-elles? On parlera également de Jean-Pierre Raffarin qui soutient Emmanuel Macron. Si vous êtes militant des Républicains, qu'en pensez-vous? Vous parlez à l'instant du sida. Quel regard porte-t-on aujourd'hui sur quelqu'un qui est malade? Vous pouvez également intervenir sur ce sujet, comme sur la disparition de Luc Perry, qui était l'acteur star de Beverly Hills. À tout à l'heure.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Deux surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe près d'Alençon ont donc été poignardés ce matin par un détenu radicalisé. L'homme aurait crié à la Ouagbar. Les surveillants sont grièvement blessés, Guillaume Chiez, et leur agresseur est maintenant retranché dans la prison.
Oui, retranché dans l'une des unités de vie familiale, un endroit spécialement aménagé par la prison qui permet aux détenus de voir leur famille sur des durées plus longues qu'un simple parloir. Ce matin, donc, le détenu de 28 ans était accompagné de sa femme lorsqu'il a agressé les deux surveillants armés d'un couteau. Lourdement blessé au visage et au ventre, leurs jours ne sont plus en danger. Joseph Rousseau est délégué interrégional FO pénitentiaire.
C'est un détenu radicalisé, bien connu hein, de la pénitentiaire et de l'extérieur, qui avait déjà eu des antécédents dans deux établissements. Il a agressé ce matin les deux collègues justement en criant à la voix de bas. Donc bon, c'est pas un petit profil, hein, c'est un profil lourd.
Très lourd même, hein, puisque le condamné a écopé d'une peine de 30 ans en 2014. Il avait séquestré, torturé, puis tué un ancien cheminot rescapé des camps de concentration. Le détenu avait été également fait parler de lui lors de son incarcération à Mulhouse, en mimant les attentats du 13 novembre tout en criant Bataclan. Pour l'heure, la prison de Condé-sur-Sarthe est bloquée. Le raid et les équipes d'intervention pénitentiaire viennent d'arriver sur place pour interpeller l'agresseur et sa compagne.
Les précisions de Guillaume Chiez, merci. Mehdi Nemmouche a pris la dernière fois la parole ce matin devant le tribunal de Bruxelles avant la suspension des débats. L'homme accusé d'avoir tué 4 personnes au musée juif de Bruxelles a réaffirmé son innocence. « J'ai été piégé », a-t-il dit. Le djihadiste français a ajouté de manière assez énigmatique, si c'était à changer, je changerais tout. À Grenoble, les jeunes de certains quartiers n'acceptent pas la mort de deux garçons de 17 et 19 ans à scooter. C'était samedi. Ils circulaient sans casque sur un deux roues volé, dépourvu de plaques. Ils étaient poursuivis par la police. On en est à la troisième nuit d'émeute et l'oncle d'Adam, l'une des deux victimes, il s'appelle Karim, lance un appel au calme.
On appelle tout le monde au calme, cette violence ne mènera à rien. Déjà, il y a eu assez de dégâts comme ça, il y a eu 2 décès, et pas qu'il y a quelqu'un qui a perdu un œil, ou je sais pas. Donc c'est toujours quelque chose de trop, et j'espère que ça va s'arrêter, ces affrontements urbains, cette guérilla urbaine qui ne mènera strictement à rien.
Voilà, cette nuit, 65 véhicules ont été incendiés et les échauffourées parties du quartier Mistral se sont étendues à la Villeneuve, Tesserre et jusqu'à Échirolles. Serge Pueyo, vous êtes sur place pour RTL. Le malaise persiste chez les jeunes.
Oui, ces jeunes qui ont lancé des parpaings contre les policiers depuis les toits des immeubles, jeté des cocktails Molotov contre des camions de pompiers, restent persuadés, malgré les démentis des autorités, que la mort de leurs deux copains, Adam et Fatih, est le résultat de l'action de la police le soir du drame.
Les pousser dans une autoroute qui n'est pas éclairée, avec un scooter qui n'est pas éclairé, où le trafic peut être dense, il y a les retours de vacances, on est un samedi soir, donc mettre la vie en danger de ces deux petits jeunes. Là, on voit deux jeunes paniqués, pris par la panique, prendre une autoroute. On les a poussés à la mort. Plutôt que de venir les contrôler le lendemain, parce qu'on les a reconnus, ils méritaient vraiment pas de mourir. Et c'est le combat qu'on va entreprendre tous ensemble pour que justice soit faite. Aujourd'hui, ils sont plus là pour un simple non-port du casque, pour un simple contrôle qu'aurait pu se dérouler le lendemain.
Et même si le procureur de Grenoble n'a relevé à ce jour aucune faute des policiers, la violence risque de perdurer dans le quartier Mistral.
Reportage Serge Puyot à Grenoble. Carlos Ghosn va-t-il quitter la cellule de sa prison où il est depuis plus de 3 mois? Le tribunal de Tokyo a accepté ce matin sa mise en liberté, moyennant une caution de 8 millions d'euros. Mais le procureur a aussitôt fait appel pour que l'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi reste en prison. Les prochaines heures seront donc cruciales. Et nous sommes en ligne avec Maître Le Borgne, l'avocat français de Carlos Ghosn. Bonjour Maître.
Bonjour.
Pensez-vous qu'il peut sortir dans les heures qui viennent ?
Écoutez, il est toujours difficile de se lancer dans le pronostic judiciaire, mais les faits de ce dossier sont tels, et je dirais tellement légers en réalité, que la sortie serait normale. J'espère que le juge d'appel partagera la position du juge de première instance, et surtout que le procureur, qui semble en faire une affaire personnelle, n'ira pas utiliser ce stratagème qui consiste à repoursuivre la personne mise en liberté pour un autre fait, ce qui est finalement une manière de poursuivre sans fin les choses.
Oui, c'est Mais il pourrait être encore arrêté sur d'autres chefs d'accusation. Ça, c'est un scénario que vous redoutez aujourd'hui.
C'est un scénario qui est théoriquement possible, qui a déjà été utilisé et qui en réalité montre qu'il y a une sorte de puissance assez anormale du parquet, de la partie poursuivante, qui peut contrer la décision du juge du fond.
Le juge a changé. Est-ce que pour vous c'est un signe positif, un signe d'ouverture ?
Bien sûr que c'est un signe positif, bien sûr que c'est un signe d'ouverture. Et il est quand même, à mon avis, normal que devant une situation dont nous n'avons pas le temps de développer les détails, mais qui est quand même assez extraordinaire et peu convaincante sur le terrain de la culpabilité, qu'un juge qui constate qu'un homme clame son innocence décide de le mettre dans une position de liberté et de rompre avec cette détention dont nous savons qu'elle a, dans certains systèmes, la finalité d'arracher des aveux.
Et le fait qu'il ait déjà passé plus de 100 jours en prison, est-ce que ça peut jouer aussi en sa faveur ou pas ? Ou ils y sont complètement insensibles ?
Écoutez, ça, je ne vais pas me glisser dans une analyse psychologique des profondeurs de l'âme du juge japonais. Ça serait un peu imprudent et pas très sérieux de ma part, mais je pense que le fait qu'une détention ait été accomplie montre aussi, alors qu'on n'a finalement rien de plus depuis 100 jours, montre que peut-être maintenant un esprit équilibré, normal, n'ayant pas de parti pris et indépendant, considère que ça suffit.
Est-ce que, Maître Le Borgne, le montant de la caution, c'est-à-dire 8 millions d'euros, a été réuni à l'heure où l'on se parle ?
Écoutez, je n'ai pas d'éléments sur ce sujet. Nous nous attendions à un cautionnement, si la liberté était ordonnée, qui serait élevé. C'est tout ce que je peux vous dire à l'heure où nous parlons.
Est-ce que vous avez juste des nouvelles de Carlos Ghosn ? Vous pouvez nous dire comment il va ?
J'ai des nouvelles indirectes, puisque depuis Paris, il est impossible d'avoir des contacts avec lui. Aucun téléphone n'est envisageable. Il y a des téléphones dans les prisons françaises, mais pas dans les prisons japonaises apparemment. Je sais qu'il résiste, qu'il a une force de caractère assez exceptionnelle et qui fait la caractéristique d'un homme d'exception. Mais lorsque l'on est 24 heures sur 24 dans une cellule où la lumière ne s'éteint jamais, qu'on est privé de sa montre, qu'on ne sait plus très bien si on est jour ou la nuit, et il y a un moment quand même où indiscutablement ça ne va pas si bien que ça, et il serait temps que ça finisse.
Merci Maître Le Borgne, merci d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Je rappelle que vous êtes l'avocat français de Carlos Ghosn. Ford à Blanquefort, c'est fini, on en parle dans un instant.
RTL Midi
avec Christelle Robière.
Le site Ford de Blanquefort est cette fois au point mort. Le plan de sauvegarde de l'emploi a été homologué par la direction du travail. Le constructeur automobile américain accepte de verser les 20 millions d'euros que lui réclamait Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. C'est la fin de l'histoire pour les 850 salariés qui y fabriquaient des boîtes de vitesse. Philippe de Maria, vous êtes à Blanquefort pour RTL et pour les syndicats, c'est un coup dur.
Oui, la validation du PSE sonne le glas des espoirs pourtant timides des Ford de Blanquefort. La volonté forte affichée depuis un an par la compagnie américaine de fermer l'usine ne laissait pas vraiment planer de doute. Désormais, on y est, Ford se retire. Thierry est syndicaliste CGT.
Mais l'usine, c'est morose. Les gens, et plus ça va, plus ils s'aperçoivent que c'est la fin. Avec la validation du PSE, je pense que ça va être encore plus tendu. Physiquement, moralement, et ça use, quoi. J'ai travaillé assez jeune. Il doit me rester un bon morceau quand même à faire aussi. Pour l'instant, dans ma tête, c'est bloqué. De toute manière, ils vont nous donner un chèque, que ça soit n'importe quelle somme. On ne peut pas le négocier, malheureusement. Donc, je prendrai ce qu'on me doit. Et après, ben là, la peur, l'inconnu, et je ne sais pas. Aucune idée pour moi.
Bruno Le Maire a donc annoncé une rallonge de 20 millions d'euros versés par Ford pour réindustrialiser le site. Cette somme se rajoute aux 165 millions d'euros du PSE de Ford Blanquefort.
Reportage Philippe de Maria. Emmanuel Macron est donc parti en campagne pour les européennes. Dans une lettre adressée aux citoyens d'Europe et publiée dans 28 pays, il se positionne en leader et propose une renaissance européenne. Il y prône une liberté en sécurité via une remise à plat de l'espace Schengen, la préférence européenne pour les entreprises ou encore un bouclier social. C'est inédit. Alors comment ce leadership est-il vécu justement chez nos voisins? Nous partons dans l'ordre à Berlin, Varsovie et Rome.
Ici, en Allemagne, les premières réactions sont très favorables. L'ex-patron du SPD, Sigmar Gabriel, Macron a raison, l'Europe doit être plus qu'un marché intérieur sans âme. Il a vraiment un format européen. La députée des Verts, Franziska Brandner, c'est l'impulsion attendue par tous les pro-européens et pour Angela Merkel, la dernière chance de montrer qu'elle peut prendre des risques pour l'Europe. Un appel enflammé aux citoyens européens, dit le quotidien Handelsblatt. Toute la presse allemande reprend et dans le détail les propositions du président français. En revanche, silence radio à la chancellerie et beaucoup posent déjà la question, quand recevra-t-il enfin ?
Ici à Varsovie, c'est le quotidien conservateur Gest Postpolita, tiré à 50 000 exemplaires, qui a publié la tribune. Alors pour l'instant, pas de réaction aux propositions d'Emmanuel Macron dans la classe politique ou dans les médias, mais on s'attend à des déclarations dans l'après-midi ou ce soir.
Une réponse du gouvernement allemand.
Ici à Rome, le quotidien centriste Il Corriere della Sera a choisi pour publier la tribune d'Emmanuel Macron ne fait pas de commentaires, mais met en exergue certaines propositions dont celle relative à une police commune aux frontières. Le journal libéral Il Folio note que l'intervention du président français marque bien son entrée en campagne pour une Europe capable d'affronter les défis du 21e siècle et la Repubblica, proche de la gauche, se félicite des projets pour une Europe qui protège la démocratie. Mais pour le moment, aucune réaction de l'ennemi numéro un de Macron, Matteo Salvini.
Merci à Blandine Milson à Berlin, Fanny Boucaud à Varsovie et Anne Lenir à Rome.
RTL, sur la route du grand débat.
Et sur la route du grand débat, nous arrêtons aujourd'hui à Montluçon, dans l'Allier, pour illustrer une des problématiques du moment, le désert médical. Là-bas, 2400 patients n'ont pas de médecin traitant et le tiers des généralistes va partir à la retraite d'ici 2 ans. Alors les habitants prennent les choses en main. Philippe Busseron est le président de l'association des patients abandonnés en recherche de médecins. Le nom à lui seul est évocateur.
2400 patients n'ont déjà plus de médecin référent aujourd'hui, avec 16 nouveaux départs d'ici la fin de l'année 2019. On va se retrouver dans une situation là, catastrophique. Aujourd'hui, devant la passivité de beaucoup de gens, eh bien, nous avons décidé qu'il fallait vraiment faire quelque chose et que pour démarrer ce centre de santé, eh bien, il fallait le gérer nous-mêmes. Disons qu'on ne peut pas toujours tout attendre des autres et qu'il faut absolument prendre les choses en main parce que là aussi, les médecins ne voulaient plus être en libéral et voulaient travailler en salarié. Aujourd'hui, ce qui nous manque, eh bien, c'est finaliser l'accord avec la mairie pour la mise à disposition des locaux. Nous avons monté notre projet de santé que je vais présenter à l'ARS la semaine prochaine. En termes de patientèle, je pense qu'on peut envisager autour de 8 et 10 000 patients.
Philippe Busseron, au micro RTL de Sinamir. Alors faisons le point justement avec vous, Martial You. Salarier les médecins, c'est vraiment aujourd'hui ce qu'il y a le plus efficace?
C'est en tout cas une des pistes qui est défendue par le gouvernement, puisque dans le cadre du plan santé 2022, 400 médecins salariés sont en train d'être recrutés par des hôpitaux de proximité pour renforcer les effectifs dans les déserts médicaux. Il faut savoir que les jeunes diplômés qui sortent des facs de médecine choisissent de plus en plus le salariat. En 2017, les deux tiers des 8600 nouveaux médecins inscrits au Conseil de l'Ordre avaient choisi d'être salariés et non pas à leur compte. Attention toutefois, parce que les médecins salariés par les collectivités locales, notamment, viennent souvent de l'étranger. C'est un quart environ des effectifs. Et puis surtout, c'est un statut qui coûte très cher aux collectivités. Il faut payer le médecin environ 5 000 € par mois, mais aussi lui fournir des locaux et éventuellement une secrétaire. La solution défendue par les syndicats de médecins, c'est de développer en fait un statut mixte, salarié d'un hôpital par exemple le matin ou d'une collectivité, et puis libéral l'après-midi. Il faut savoir qu'on n'a jamais eu autant de médecins en France, 226 000, mais il y a de moins en moins de généralistes qui s'installent.
C'est une piste à l'étude intéressante. Merci Martial. En Algérie, plusieurs milliers d'étudiants manifestent ce matin dans le centre d'Alger, mais aussi à Oran ou encore à Constantine pour protester contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika. Il n'y aura pas de cinquième mandat, ont chanté les jeunes salués par des badauds. La police n'est pas intervenue. Dans un instant, un espoir dans la lutte contre le sida.
RTL Midi. Avec Christelle Rebière.
Va-t-on un jour guérir du sida? 36 ans après la découverte du virus qui a fait 36 millions de morts dans le monde, un espoir. À Londres, un homme soigné est en rémission. Il n'a plus aucun signe de la maladie depuis un an et demi, mais son cas reste exceptionnel, Odile Pouget.
Oui, exceptionnel parce qu'en un peu plus de 10 ans, il est seulement le deuxième malade au monde pour lequel cette thérapie fonctionne. Le premier, c'était Timothy Ray Brown, celui qu'on a appelé le patient de Berlin, âgé de 53 ans et qui vit actuellement en Californie. Alors, comme ce patient de Berlin, cet homme a subi, il y a 3 ans, une greffe de moelle osseuse pour venir à bout d'une autre pathologie, d'une leucémie, un cancer du sang. Greffe particulière, puisque les cellules immunitaires du donneur qu'on lui a injecté possédaient une mutation génétique rare, résistant au VIH. Résultat, cela fait 19 mois, plus de 500 jours que le virus n'est plus détectable dans son sang alors qu'il a arrêté de prendre ses traitements antirétroviraux. Mais les médecins se montrent bien sûr très prudents parce que cette thérapie reste complexe, risquée et qu'il faudra encore de nombreux examens pour parler de guérison, comme ce fut le cas pour le patient de Berlin, sans signe d'infection de la maladie depuis 2007.
Alors avec nous, pour aller plus loin et pour faire le point sur les traitements, Michaela Müller-Trudwin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche à l'Institut Pasteur. Alors la rémission de ce patient est-elle vraiment porteuse d'espoir, tant son cas est particulier comme celui du patient de Berlin ?
Alors il est en effet porteur d'espoir au niveau de la recherche. C'est effectivement le deuxième cas depuis le cas de Berlin. Et effectivement, il y a eu déjà des tentatives de reproduire le cas de Berlin qui n'ont pas abouti. Mmh. Donc c'est pour cela, c'est un cas très important pour nous, parce qu'on voit que le cas de Berlin peut être reproductible, la guérison est possible, sachant que ce n'est pas une thérapie envisageable pour les individus infectés par le VIH, bien sûr.
C'est ça, donc on ne peut pas imaginer une généralisation de ce type de thérapie?
Non, en aucun cas. Déjà, ça, c'était des individus, ce sont des individus qui ont une leucémie, qui ont besoin de la greffe pour traiter la leucémie, hein, on est bien clair. Par contre, le fait de voir qu'une guérison est théoriquement possible, même pratiquement là, ça nous permet, nous, de chercheurs, d'avancer dans nos connaissances sur ce qu'il faut pour aboutir à une guérison.
On va dire les choses clairement, Michaela Müller-Trudwin. Aujourd'hui, on vit avec le sida, mais on n'en guérit pas.
Disons que effectivement, les traitements sont très efficaces, hein, donc les traitements peuvent complètement contrôler la réplication du virus, et donc le patient survit bien, et il va très bien, mais le virus reste dans son corps, et donc il ne peut pas arrêter les traitements, et dans ce cas-là, il n'est pas guéri.
Il y a 37 millions de personnes dans le monde qui vivent en ce moment avec le VIH. Le traitement le plus efficace, c'est toujours la trithérapie?
Absolument, la trithérapie est très efficace, mais il y a beaucoup de problèmes. Hein. Déjà au niveau mondial, il y a seulement 60% des personnes infectées par le VIH qui ont accès au traitement. Et il faut absolument aussi continuer les recherches pour trouver un vaccin, par exemple.
Alors justement, sans faire de science-fiction, on pourrait imaginer un vaccin quand?
Ah, c'est très difficile de donner des chiffres.
Hein. 10 ans, 20 ans, 30 ans
Moi, personnellement, c'est la première fois que je suis optimiste qu'on va y arriver. Parce que peut-être on arrive maintenant à envisager aussi des vaccins qui sont différents des vaccins qu'on connaissait avant.
C'est-à-dire, expliquez-nous.
On pourrait aussi imaginer, par exemple, des injections une fois par an, par exemple. Donc, pas un vaccin qui immunise, mais quelque chose qui pourrait être peut-être administré, qui protège.
Et là, on est proche.
D'autres concepts. Même les trithérapies, par exemple, la PrEP, c'est quelque chose qui protège contre l'infection.
Mmh. Mais aujourd'hui, à l'heure où on se parle, finalement, 35 ans après la découverte du virus, le meilleur moyen, c'est encore de se protéger.
Absolument. Donc, je conseille fortement à tout le monde de se protéger. Il y a différents moyens maintenant pour se protéger. Donc, chacun est libre de choisir ce qu'il préfère, mais c'est très important. Le risque du VIH est toujours là et le nombre de nouvelles infections ne diminue pas, notamment parmi les adolescents et les jeunes.
Mmh, mmh. Donc, le préservatif, il faut le dire et le redire.
Absolument.
Merci Michaela Müller-Trudwin d'avoir fait le point sur la recherche sur le virus du sida. Le défilé posthume de Karl Lagerfeld pour Chanel sous la verrière du Grand Palais. Une fois de plus, un décor grandiose avec une station de ski reconstituée. Mais les mannequins, ce matin, sont restés debout, silencieuses durant une minute en hommage au couturier décédé il y a 2 semaines. En rugby, le 15 de France qui avait réussi à battre l'Écosse dans le tournoi des Six Nations est reconduit à l'identique pour aller défier l'Irlande dimanche. Enfin, pendant que le PSG se prépare à recevoir Manchester United pour une place en quart de finale de la Ligue des Champions. Neymar détend son 5e métatarse au Carnaval de Rio. Il est apparu hier soir dans les tribunes. Le PSG l'a autorisé à poursuivre ses soins à la maison. Il y a pire comme ambiance. Et on retrouve Pascal Pro avec qui vous allez dialoguer.
Le 5e métatarse de monsieur Neymar. Bah, exceptionnellement, je vais vous parler de quelque chose que j'ai pas entendu dans votre journal.
Mardi Gras.
Ah, Mardi Gras, vous avez raison, aujourd'hui. Mardi Gras, c'est avant le carême. Hein.
Oui,
à partir de demain, c'est le carême. Non, je ne vais pas vous parler de ça. Je vais vous parler de Jean-Marie Bigard. Parce que figurez-vous que sur Twitter, il a annoncé aujourd'hui avoir été viré de la tournée estivale de Var Matin. C'est ce qu'il dit, hein, faut vérifier. Une éviction qu'il impute à son passage polémique dans « Touche pas à mon poste » début février, où il avait fait une blague extrêmement douteuse. Il avait raconté une histoire, notamment sur le viol, une histoire de viol. Et il a écrit « Je suis viré, je suis détruit, mes chers amis », etc. Et je veux savoir ce que les auditeurs en pensaient. Est-ce qu'on doit virer quelqu'un pour une mauvaise blague, une blague ? Ça rappelle un peu l'affaire Tex, hein, si vous vous souvenez, qui avait été viré.
Oui.
Sujet plus classique, que pensez-vous de la tribune d'Emmanuel Macron sur l'Europe ? Peut-elle être entendue ? Les questions européennes vous intéressent-elles ? Jean-Pierre Raffarin, bien évidemment, le sida, sujet dramatique, est-ce qu'on peut vivre avec ? Comment vivez-vous aujourd'hui avec ? Et puis, Luc Péry, qui est décédé, vous pouvez également intervenir sur ce sujet entre 13h et 14h. Mais Jean-Marie Bigard, les auditeurs, ça m'intéresse, ce qu'ils en pensent. À tout de suite.
À tout de suite. La météo, Louis Baudin, ça nous intéresse aussi.
Merci.
On profite de l'accalmie.
Oui, c'est vrai. Alors, accalmie, surtout dans la moitié sud, où on va retrouver cet après-midi du soleil avec un temps sec et des vents un peu plus calmes, hein, notamment à proximité des Alpes ou encore de la Corse, même s'il restera un peu de mistral et de tramontane aux extrémités de l'île. Mais globalement, donc, de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes et à la Méditerranée, ça sera du grand soleil. Même chose du côté du Languedoc-Roussillon. Alors, on montera sur une zone intermédiaire de la région Poitou-Charentes à la région Rhône-Alpes, où là, ça sera moitié nuage, moitié soleil avec peu pas de précipitation. Et puis au nord de la Loire, ben là, ça restera très nuageux avec quelques rares éclaircies, mais encore des averses. On voit très soutenu d'ailleurs du côté du nord-est et ça sera comme ça tout au long de l'après-midi avec encore un petit peu de vent près de la Manche jusqu'à 60 km/h. Les températures toujours un peu au-dessus des normales de saison. On sera entre 8 et 10 degrés dans le nord-est, 11 à 14 degrés, pas moins dans les autres régions de la moitié nord, et 14 à 19 dans le sud, 20 degrés même attendu à Biarritz.
Et demain, une nouvelle perturbation ?
Eh oui, elle revient par le nord-ouest. Alors
ça
le matin, mais oui, ça défile, hein, de l'Atlantique, c'était annoncé, hein, de l'Atlantique aux côtes de la Manche, et puis en cours d'après-midi, de l'Atlantique jusqu'à la frontière belge, en passant par l'Île-de-France, une perturbation continue avec des nuages, de la pluie, du vent assez fort sur le littoral de la Manche. Alors avant l'arrivée de cette perturbation, on aura un voile de plus en plus nuageux des Pyrénées aux frontières de l'Est, et puis une nette dégradation concernera également le quart sud-est, avec le retour des nuages, de la pluie, tout cela poussé par un vent marin assez fort, notamment dans le Languedoc-Roussillon. Côté température, elle sera très doux, hein, demain, poussé par ce vent de sud-ouest. Les températures iront de 12 à 14 degrés près de la Manche, mais 14 à 20 degrés dans les autres régions de la moitié nord et souvent dans le sud. On ira même parfois jusqu'à 22 degrés dans le sud-ouest.
Quand même.
Donc de la pluie, mais de la douceur.
Bon, un petit coup de vent, mais pas de tempête. Hein.
Non, pas de tempête, mais de nouveau un coup de vent, c'est vrai, près de la Manche, où on frôlera les 90 km/h.
Merci Louis. Il est 13h tout pile.
Le Tout Info, des auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec vous Alexandre de Saint-Aignan, bonjour.
Bonjour Christelle, bonjour à tous. C'est ce qu'on appelle pratiquer la politique de la chaise vide. Les syndicats vont boycotter demain la réunion sur la réforme de la fonction publique. C'est une information RTL. Seule la CFDT s'y rendra, mais le quorum ne sera pas atteint. Anaïs Bouissou, les syndicats dénoncent une fois de plus le mode de négociation du gouvernement.
Oui, des réunions de concertation inutiles, un calendrier contraint, une réforme qui pêche autant sur le fond que sur la forme. Ce sont les critiques des organisations syndicales. Et pour résumer, le gouvernement a réussi à agacer la totalité des syndicats. Certains dénoncent une casse du service public, car le projet de loi prévoit un système de rémunération au mérite, des départs facilités vers le privé, l'embauche de plus de contractuels, autant de rapprochements avec le fonctionnement des entreprises. En signe de protestation, après avoir déjà refusé plusieurs séances de travail, les syndicats s'apprêtent donc à boycotter la réunion de séance plénière prévue demain. Luc Faré, le représentant de l'UNSA, dénonce l'entêtement du gouvernement et l'absence de dialogue.
C'est une caricature de monologue social parce que on compte le nombre de réunions, mais on ne compte pas la qualité des réunions. Alors si le gouvernement n'a pas compris le message fort que nous lui envoyons aujourd'hui, nous à l'UNSA, avec d'autres organisations, nous préparons d'autres actions. En particulier, le jour prévu du passage du projet de loi en Conseil des ministres.
La séance devrait donc être reportée, reprogrammée plus tard. Le secrétariat d'État à la fonction publique prend acte et prévient. Si les syndicats peuvent avoir davantage de temps, ils ont donc intérêt à le mettre à profit pour faire de vraies propositions nouvelles pour l'avenir de la fonction publique.
Les précisions d'Anaïs Bouissou pour RTL. Le couperet est tombé pour les salariés de l'usine Ford de Blanquefort. Le plan de sauvegarde de l'emploi a été accepté par la direction du travail. Une annonce qui vient acter la fermeture du site industriel emblématique du constructeur qui employait 850 salariés en Gironde. Par ailleurs, Ford a accepté de verser les 20 millions d'euros réclamés par le gouvernement pour la réindustrialisation du site. Mais pour les syndicats, le compte n'y est pas. Ils veulent attaquer en justice et faire invalider le plan social, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger.
J'ai d'abord un sentiment de dégoût un peu vis-à-vis de Ford. Ford est une entreprise, une grande entreprise, qui fait le choix de sacrifier un site, même d'empêcher sa reprise par propre intérêt, au mépris de tous ses salariés qui travaillent sur ce site. Et au mépris d'organisations syndicales qui, depuis le début, se battent pour l'emploi et pas pour des indemnités. Et ensuite, je crois qu'il faut que ça nous interpelle sur le rôle que l'État peut avoir en termes de régulation de ces entreprises. Il y a la question des aides publiques qui est posée. Il faudra que l'État réfléchisse à la façon dont elle peut demander des comptes lorsque des aides publiques sont versées à des entreprises, comme ça a été le cas pour Ford. Et ces entreprises, après, méprisent l'emploi, méprisent les territoires, méprisent les travailleurs.
Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, avec Mourad Djabari pour RTL. La section antiterroriste du parquet de Paris est saisie après l'agression de deux surveillants pénitentiaires à la prison de Condé-sur-Sarthe ce matin. Ils ont été gravement blessés, poignardés par un détenu radicalisé qui s'est réfugié avec sa compagne dans une unité de vie familiale. Condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour avoir torturé et tué un rescapé des camps nazis, il a également écopé d'un an de prison pour apologie du terrorisme. Les forces d'intervention spécialisées ont été saisies. Carlos Ghosn reste en prison. La demande de mise en liberté sous caution de l'ancien PDG de Renault et de Nissan a été acceptée par la justice japonaise, mais le procureur a aussitôt fait appel, provoquant son maintien en détention. Carlos Ghosn est inculpé de fausses déclarations aux revenus, aux autorités boursières et d'abus de confiance au détriment de Nissan. Sur RTL ce matin, le nouveau directeur général de Renault, Thierry Bolloré, il a répété son attachement à l'entente entre son entreprise et les constructeurs japonais Nissan et Mitsubishi.
Tous les acteurs de l'alliance n'ont pas cessé de répéter à quel point on avait vitalement besoin de cette alliance. Malgré le choc, on a continué à prendre des décisions, et parfois des lourdes décisions. On est peut-être un peu moins gros que Nissan, c'est incontestable. N'empêche que nos résultats n'ont cessé de progresser ces dernières années. L'ensemble de nos accords sont conçus pour que, en permanence, ces rapports soient équitables et ne soient pas un rapport de force entre les différents partenaires.
Thierry Bolloré, directeur général de Renault, successeur de Carlos Ghosn, au micro RTL de Christophe Bourou. 13h04 sur RTL, un petit tour à la Bourse de Paris en partenariat avec Investir les Échos. Bonjour Sylvie Aubert.
Bonjour Alexandre.
La Bourse de Paris marque une petite pause.
-0,2%, 5277. Les boursiers lèvent un peu le pied aujourd'hui car les signes de ralentissement économique se multiplient un peu partout dans le monde, à commencer par la Chine. L'indice qui mesure l'activité dans les services a nettement ralenti en février et le gouvernement chinois a aussi révisé en baisse sa prévision de croissance pour cette année. Pékin a annoncé vouloir aussi soutenir son économie par des réductions d'impôts et de taxes et un plan d'investissement dans les infrastructures. Aux États-Unis aussi, la conjoncture est moins vigoureuse, comme le montre le repli inattendu des dépenses de construction publié hier soir. Wall Street a donc sanctionné ce chiffre par un repli de 0,8%. Du côté des valeurs, DBV Technologies continue de s'apprécier. L'action gagne 5%. À l'inverse, la dette d'Eurofins Scientifique inquiète et le titre chute de 10%.
Merci Sylvie Aubert. L'actualité, ça vous chatouille ou ça vous gratouille? Venez jouer les poils à gratter avec Pascal Praud. Composez le 3210 sur votre téléphone. Dans un instant, les auditeurs ont la parole sur RTL.